Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h41, vous êtes sur France Inter et c'est l'Instant M qui redémarre.
Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits.
95 000 téléspectateurs.
Nos abonnements augmentent grâce au numérique.
On fout des sondages.
La grande litanie des plans sociaux, plans de relance, plans de reconquête, accords de performance collective et autres plans d'économie. À chacun sa formule, mais semaine après semaine, les groupes médias français détaillent l'impact de la crise sanitaire, traduisait collapse publicitaire sur leurs comptes. Conséquences immédiates pour M6, RTL, BFM TV, RMC, Libération, L'Express, L'Équipe et désormais Le Parisien. Là, la direction a confirmé hier ce que journalistes, syndicats, mais aussi lecteurs et élus locaux craignaient. À savoir la suppression des éditions départementales du journal, à savoir son ancrage sur papier dans chaque village et dans chaque quartier. Changement de stratégie, changement de culture.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Pierre Louette.
Bonjour.
Vous êtes le PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, c'est aujourd'hui vrai. En France. Je rappelle que Les Échos et Le Parisien ont le même actionnaire, LVMH. Je vous remercie de nous accorder cette interview au lendemain de la présentation de ce plan de réorganisation. Alors avant d'y venir, je tenais à un court focus sur la situation des pigistes dans les médias français en général, pas dans votre groupe seulement. Partout, on annonce des plans d'économie. Ceux-ci se traduisent généralement par des rédactions qui cessent d'employer leurs pigistes. Ceux-ci représentent pourtant une part très importante de la profession. Ils vont être les premiers, si ce n'est pas déjà le cas, à se retrouver sur le carreau. Bonjour Julie Lalouette-Geoffroy.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous sur France Inter. Un mot de vous d'abord, Julie. Vous êtes co-dirigeante de l'association Profession Pigiste. Vous, vous êtes basée où, Julie?
Je suis basée à Rennes.
D'accord. Et vous travaillez dans quel type de secteur et pour quel type de presse?
Je travaille essentiellement sur les questions agricoles et environnementales. Ouais. Et je travaille plutôt en presse écrite, que ce soit papier ou sur Internet.
D'accord. Alors évidemment, les annonces sont partout les mêmes. Ça commence systématiquement par on réduit le nombre de pigistes, voire on n'y a plus recours du tout.
Bah oui, on voit bien que les pigistes sont considérés comme une marge d'ajustement finalement par les employeurs de presse. Alors que, faut quand même le rappeler, les journalistes pigistes sont des salariés de plein droit aux yeux de la loi Cressard de 1974. Donc sont vraiment des salariés à intégrer au sein des rédactions. Mais on voit bien que les employeurs de presse ne le voient pas de cet œil-là et comptent effectivement sabrer dans ces effectifs-là. Quoi. Sachant qu'ils mettent quand même dans le même panier journalistes rémunérés à la pige, donc rémunérés à l'article, voilà, journée de travail dans l'audiovisuel, mais ils mettent aussi souvent intermittents, CDD, CDD d'usage, droit d'auteur, enfin il y a tout un brouillard aussi de ce niveau-là.
En fait, tout ce qui échappe au CDI.
Au CDI classique, c'est-à-dire celui que l'on entend tous à temps plein dans une rédaction, dans un bureau. Parce que la pige est un CDI.
Oui, c'est ça. Alors, évidemment, ça va pénaliser et même frapper de plein fouet une part très très importante de la production médiatique et une part très importante des journalistes, les jeunes notamment, mais pas seulement.
Ah bah oui, bah là les jeunes diplômés devaient faire leur stage et leur premier contrat cet été pour pouvoir se lancer à la rentrée. Bon bah là c'est la grande inconnue. Enfin nous à Profession Pigiste on est très inquiets pour l'insertion professionnelle des jeunes et puis à tous les autres parce qu'effectivement il y a les pigistes qui auront plus de boulot. Comment faire, comment se retourner, comment trouver d'autres piges, est-ce qu'il va y avoir des reconversions, enfin. C'est vraiment le grand flou pour tout le monde là.
Est-ce que, Julie, vous craignez une baisse des tarifs?
Pour avoir un ordre d'idée, en presse magazine, on est à 50 euros brut le feuillet, c'est-à-dire un tiers de texte sur une page Word. Ça inclut tout le travail en amont, les interviews, la rédaction, les échanges, etc.
Oui.
Et en gros, pour faire un SMIC sur un mois, il faut faire plus de 11 pages d'un magazine. Et sur une page, généralement, il y a plusieurs sujets. Donc on voit déjà la charge de travail que ça représente pour un SMIC. Donc si on baisse les tarifs de pige, enfin bon non, il n'y a plus de pigiste.
Ouais ouais. Est-ce que vous vous retournez vers les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez des interlocuteurs?
Oui, on a déjà échangé avec le ministère de la Culture sur ces questions-là, aux côtés des syndicats et d'autres associations et collectifs. Nous, notre ligne, en fait, c'est de dire que les textes de loi, ils existent déjà. Le problème, c'est de faire respecter la loi. Il y a aussi la question de la conditionnalité des aides à la presse. on vous aide, et ben en contrepartie, bah, déjà vous respectez la loi, vous respectez le code du travail.
C'est ça, être exemplaire en échange des aides. Je vous remercie, Julie Lallouette, Geffroy, continuez de nous alerter et on suit le dossier dans l'instant même. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
Voilà. Merci à vous, bonne journée.
Et je voulais demander à Pierre Louette, le patron des Échos du Parisien d'aujourd'hui en France, de réagir à cette situation dénoncée par les associations de pigistes.
Mais écoutez, moi,
la variable d'ajustement, comme ils disent.
C'est pas vraiment ça. Chaque situation humaine est particulièrement douloureuse. Il faudrait les regarder les unes après les autres. Je pense que pigiste a souvent été un volet préparant une intégration. Il y avait cette perspective.
Moi,
j'étais à l'AFP, PDG, DG pendant des années, et on intégrait régulièrement des pigistes. Bon. Ce qui se passe
moi
aujourd'hui,
aussi, c'est comme ça que j'ai démarré.
Vrai, voilà,
oui.
Et c'était une façon de démarrer dans la carrière. Et après tout. Elle était pas mal. Moi, j'adorais que ça puisse continuer. Moi, je suis face à un mur qui est le mur de la réalité. Et cette réalité, elle est terrible aujourd'hui pour la presse. Alors, c'est terrible pour chaque personne qui est concernée là, mais c'est terrible pour les entreprises de presse. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà une crise structurelle, mais depuis des années, et pour des années encore, on passe du papier au digital. Et là, on a pris en pleine poire une crise conjoncturelle énorme. Il n'y a pas beaucoup de secteurs. Il y a des secteurs où ça allait super bien avant, et puis j'espère que ça va aller super bien après. Nous, c'était déjà compliqué avant. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc c'est vrai que ça nous met dans des situations dans lesquelles...
Vous voulez donner les chiffres du Parisien. On va commencer comme ça.
On va commencer par là, oui.
Puisque c'est l'électrochoc des chiffres. Après, on va discuter des choix que vous faites en fonction de ces chiffres. L'année dernière, le Parisien était déjà déficitaire.
Voilà, l'année dernière, on était déjà déficitaire. On donne pas les chiffres exactement, mais on parle de plus de 10 millions d'euros l'an dernier. On parlait de plusieurs dizaines de millions d'euros éventuellement cette année, avant le Covid. Mm-hmm. Nous, on avait déjà, avant le Covid, les chiffres que beaucoup de journaux ont après le Covid. Mm-hmm. Donc c'est un journal qui est particulièrement touché. Mais est-ce que je peux dire juste un mot au début là-dessus ? Parce que c'est un grand journal. Pour moi, c'est un très grand journal que j'ai toujours lu, au fond, le matin, avec beaucoup de passion, dans les Yvelines, parce que j'ai grandi dans les Yvelines. Bon. Donc c'est un grand journal, et je veux que ça reste un grand journal. Or, c'est un journal qui était aussi et resté un très grand journal du papier. On est très fort, on est très gros en papier. Et c'est le papier qui souffre le plus. Donc ce grand journal-là, c'est celui qui souffre le plus de tous les grands journaux. Et donc, on a absolument besoin d'inventer un nouveau projet. Et c'est ce qui a été fait autour de Stéphane Albouy, le patron des rédactions du Parisien aujourd'hui en France. Ça vient de lui, ça vient des tréfonds de la rédaction, pour refonder ce journal et pour préparer son avenir. C'est ça l'enjeu, parce que sinon, on va avoir un gros problème.
Alors, je vais vous faire écouter les tréfonds de la rédaction, mais comme vous dites. Je vais vous faire
écouter
Corinne Neff, 30 ans de maison.
436, oui.
Voilà, 30 ans de maison qui était à mon micro la semaine dernière. Elle est localière dans le Val-de-Marne et elle s'inquiétait, comme beaucoup de ses consoeurs et beaucoup de ses confrères, sur la disparition annoncée des éditions départementales du Parisien. On écoute.
On tient à être dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque ville, dans chaque village pour la Seine-et-Marne et l'Oise. Et c'est là où sont aussi nos lecteurs. Ce qui compte, c'est la locale, c'est ce qui se passe à côté de chez eux. On a plein de retours. Par exemple, je pense à cette dame qui s'appelle Missoumi, qui a une association qui s'appelle À cœur ouvert, qui travaille depuis des années à porter des repas chez les gens, à les aider... Et elle me disait, quand je vais porter de la nourriture aux gens qui en ont besoin chez eux, je leur apporte aussi le journal papier. Ils en ont besoin. C'est une fenêtre ouverte sur leur monde proche.
Alors, dans les tréfonds de la rédaction, Pierre Louette, et dans les tréfonds des quartiers et des villages que vous couvrez, on ne renonce pas, on ne veut pas renoncer aux éditions papier, aux éditions départementales papier. Je rappelle qu'elles sont 9 dans l'Essonne, les Hauts-de-Seine, l'Oise, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Yvelines, Val-d'Oise et Val-de-Marne. Parce que vous vous adressez aussi à une population qui n'est pas passée au tout numérique.
Bien sûr.
Vous le savez.
Bien sûr. Donc je comprends très bien l'émotion qui s'exprime là, et on va trouver forcément telle ou telle dame, et qu'on respecte chacune et chacun de nos lecteurs, évidemment. Est-ce que vous avez une idée, je ne sais pas si Corinne Neve a une idée, mais est-ce que vous avez une idée du nombre d'acheteurs du Parisien par département ?
Dites-nous.
Mais est-ce que vous avez une idée ?
Non.
Bon, vous savez que dans les départements d'Île-de-France, il y a 1,2 million, 1,3 million, jusqu'à 2 millions d'habitants. Mm-hmm. On vend en kiosque moins de 5,000 exemplaires par jour. Alors quand on parle de chaque village, chaque rue, chaque quartier, je sens une émotion considérable et je la respecte, mais c'est un tout petit peu décalé quand même par rapport à la vérité d'aujourd'hui. Donc les éditions locales Elle remonte à 75, France 3, 73, 72, 75 aussi. Donc c'était le moment où l'information locale se développait. Elles sont anciennes. Et il va demeurer une couverture locale de chaque département. C'est ça qu'il faut préciser par rapport à ce qui a été dit.
C'est-à-dire un cahier unique, une page.
Il restera des gens dans chaque département.
C'est-à-dire
vous ne supprimez pas les
antennes.
Voilà, on ne supprime pas les antennes. Il y aura des gens sur le terrain.
Vous diminuez les effectifs.
Toujours des... Oui, on diminue les effectifs. Il va y avoir des transferts qui seront proposés vers le centre et au centre... C'est ça qui fait tout l'intérêt du grand projet. Au centre, il y aura des créations de nouvelles cellules transversales, comme on en a déjà créé une il y a à peu près un an, avec des gens des éditions locales, qui s'appelle la cellule Enquête Île-de-France, qui marche super bien. Beaucoup de gens, justement, des éditions avaient postulé et ont été recrutés dans cette cellule. Et il y aura donc toujours une couverture du local. On n'avait plus déjà depuis longtemps cette capacité à couvrir chaque village, chaque rue, chaque quartier. Ça n'est pas vrai. C'est tout simplement inexact. Il faut à un moment partir du fantasme et arriver à la réalité. Donc on couvrait les départements comme on pouvait. On n'a jamais
parce
eu la même
capacité. Parce qu'en même temps, le local, voire l'ultra local,
ou Nord. Ça n'a jamais été pareil. Ben non, ça n'a jamais été pareil.
Parce que c'est votre plus, c'est même votre super plus. Et quand on voit aujourd'hui des grands médias nationaux comme BFM qui foncent la tête la première sur les régions, on sent bien qu'il y a un vrai potentiel dans le local, dans l'info de super proximité.
Mais non.
Non.
Pas vraiment. Non, pas du tout. En fait, le vrai potentiel, et d'ailleurs BFM le fait comme d'autres, mais et RTL et beaucoup de gens qui reprennent le Parisien tous les matins, c'est le journal le plus repris. Hein. Enfin, vous le savez,
on fait
les conducteurs des journaux avec le Parisien.
Absolument, on le sait.
Et on continuera.
Ouais.
Et on reprend un fait local quand ça devient un fait régional ou national. Parce que c'est tellement spectaculaire que ça devient un fait national. Et notamment parce que ça se passe en Île-de-France. Et ça qui va continuer. On va continuer à sortir ces faits. Et ces histoires, on va avoir des nouvelles cellules qui vont couvrir les transports. Transport en Île-de-France, ça concerne 12 millions de personnes. Avec le Grand Paris, ça va faciliter des nouvelles mobilités, ça concernera encore plus les gens. On aura une cellule immobilier, on a fait un cahier immobilier la semaine dernière, je crois. Il y a eu une quarantaine d'abonnés, qui sont des gens qui sont abonnés au numérique, juste parce qu'ils voulaient savoir ce qu'il y avait dans ce cahier. Donc c'est vrai qu'on gère ce passage du papier au digital, et on veut avoir des contenus qui sont encore plus adaptés au digital. On va faire une cellule, c'est récit-reportage. On va créer des cellules pour animer un débat public. On va explorer 5 nouvelles verticales. Le féminisme, le bien manger, la science, la tech. Enfin bon, énormément de projets
qui sont toutes absolument passionnantes. La vraie question, c'est est-ce que le transversal apporte plus aux gens que l'ultra-local, c'est-à-dire les quelques journalistes qui vont manquer juste là, à côté de chez eux. C'est une vraie question
que
je vous pose.
Voilà, il y en aura moins dans chaque édition. Ça, c'est tout à fait clair. On l'a dit absolument clairement aux uns et les autres, on l'a précisé. Au début, ils ont commencé à parler beaucoup, y compris à cette antenne, d'un projet qu'ils n'avaient pas vu. Comme vous savez, en France, on doit présenter un projet aux institutions représentatives du personnel d'abord.
C'est ce qui s'est passé hier.
C'est ce qu'on a pu faire hier. Donc maintenant, on parle d'un projet qu'ils connaissent. Ils sont en train de le regarder, d'analyser. Moi, je pense que c'est un très beau projet. On est plutôt enthousiaste avec la direction de la rédaction, avec Sophie Gormelaine, qui est la patronne du journal. On se dit, on a travaillé depuis des mois. Donc, c'est une réflexion qui n'a rien à voir avec le Covid.
Je vous pose, par exemple, la question, puisqu'on est en plein dans les élections municipales, comment raconter la politique locale, les chinoiseries locales, qui pourtant ont une incidence énorme sur la vie des gens, quand on a des cellules transversales et moins de gens sur le terrain.
Je peux vous dire que on n'arrêtera pas de raconter des chinoiseries. Ouais. La cellule Enquête Île-de-France, j'espère qu'elle sera à la hauteur de ce qu'on pense et qu'elle a déjà commencé à faire. Oui. Elle sort des affaires. Je ne suis pas certain que ça devienne les meilleurs amis de tous les élus locaux aujourd'hui qui se plaignent de la disparition qui n'est pas une disparition.
Qui n'ont jamais été. Enfin, je veux dire, le Parisien
l'objectif, c'est pas qu'ils soient particulièrement heureux.
Servi la soupe jusqu'à présent.
Non, c'était... Donc, je comprends, encore une fois, je comprends très bien ces élus. J'en connais un certain nombre et j'en vois d'ailleurs actuellement pas mal.
Qui ont signé une pétition.
Oui, je comprends.
7000 personnes. Ouais.
Voilà. Et si vous voulez, ça pose un autre problème qui est intéressant, qui est la question du statut de l'information. Alors, il y a d'autres systèmes dans lesquels on règle ça par des fondations. Hein, c'est le cas récemment. Bon, nous, on est une entreprise. On n'est pas un service public. C'est-à-dire que moi, on me dit, mais vous avez l'absolue exigence. On fait tout ce qu'on peut. On fait tout ce qu'on peut avec une énorme rédaction. On est quand même, il y a 436 personnes aujourd'hui. On aura,
et 30 départs 30... volontaires.
Voilà, ce qu'on a proposé, c'est pas du tout des PSE, des PDV, il y a plein de choses comme ça.
Vous
c'est
faites référence à ce qui va se passer chez BFM,
vous
RMC,
dit au début de l'émission,
à
voilà.
L'équipe.
C'est un peu
chacun
différent,
formule,
c'est un peu singulier chez nous. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance et je suis très fier, vraiment, d'avoir un beau projet et qu'il soit accompagné de mesures d'économie. On cherche 10 millions d'économies, dont un tiers dans la rédaction. Donc, c'est pas la rédaction qui trinque en premier. tout le journal, on passe tout à la paille de fer, comme on dit, le papier, l'imprimerie, la distribution, tous les postes.
Parler de vos chiffres, hein, la baisse de la diffusion France Payée, c'est-à-dire la baisse de ce que vous avez vendu. En effet, vous êtes passé de 188 000 à 169 000 exemplaires pour Le Parisien en un an. Et le plus gros décrochage a eu lieu entre mars et avril. Qu'est-ce qui vous a le plus pénalisé, Pierre Louette? La Poste, qui a été très défaillante, ou le manque de marchands de journaux?
Dans la période récente, très clairement, on a eu, il y avait 20% des points de vente fermés. Donc, quand on a moins de points de vente fermés, des kiosques, les relais étaient fermés pendant un moment. Les relais, on vend pas mal de journaux. Mais c'est important.
Tous les relais dans les gares.
Voilà, exactement, les gares. Bon, les aéroports étaient fermés. Bon. Voilà. Donc ça, c'était la période récente. Mais peut-être encore plus important à avoir en tête, c'est ce qu'on a partagé hier avec l'ensemble du personnel, mais je leur avais déjà donné tous ces chiffres-là. En 5 ans, on a perdu 110 000 exemplaires. Qui peut s'adapter à une situation dans laquelle il perd 110 000 exemplaires. Je dis par département, on vend aujourd'hui, on fait payer 15 000 à 20 000 exemplaires par département d'Île-de-France. Là où on vient de m'expliquer que chaque rue, chaque village, chaque... Bon, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... malheureusement, de souvenirs, et il y a une réalité comptable qui est très différente. Il est vrai aussi qu'on est dans un pays dans lequel 250 ou 300 euros par an pour un abonnement, mais ça fait de l'argent.
Ça fait de l'argent.
Ça fait vraiment de l'argent, et je le comprends parfaitement. Donc, en ligne, c'est moins cher. Alors, tout le monde n'est pas en ligne.
Non, tout le monde n'est pas en ligne. Quand on a un lectorat vraiment populaire.
Imaginez-vous que j'ai passé 8 ans de ma vie à fibrer avec d'autres chez Orange, le pays, à porter du haut débit. Donc, je connais un tout petit peu le sujet. Tout le monde n'est pas en ligne aujourd'hui. Enfin, quand même beaucoup le sont. Et quand on interroge nos lecteurs là, il y a certains qui disent, bien sûr, moi je continuerai. On a 93 000 abonnés papier. C'est pas mal aussi. Bon, on entend bien les garder. Chacun d'entre eux compte. On cherche à en développer des nouveaux, évidemment. Mais on veut aussi développer ces abonnements en ligne qui ont moins ces coûts de distribution, de portage que vous connaissez bien, qui sont liés.
Quelle économie vous faites en supprimant ces 9 cahiers pour un cahier?
On cherche. Alors c'est un plan global. C'est
un plan global de 10 millions d'économies.
Voilà,
mais le fait de moins imprimer et de moins distribuer, c'est chiffré. C'est évidemment chiffré.
C'est chiffré, mais c'est des coûts de calage en fait à l'imprimerie. C'est pas absolument.
Une dernière question, Pierre Louette, c'est très important parce que voilà un autre scandale qui pèse très très lourd sur les finances de la presse française en ce moment. Prestalis, le numéro un de la distribution, c'est votre distributeur, j'imagine, en France. Donc l'entreprise qui achemine les journaux depuis les imprimeries jusqu'à chez les marchands de journaux est en pleine liquidation. Les dépôts en région liquidés. Le Carsud Sud-Est de la France privé d'informations imprimées depuis 5 semaines, des marchands de journaux qui vont en mourir, des actions coup de poing sur place et des blocages. Est-ce que vous avez tenté, vous, comme d'autres groupes de presse, de remplir des camions et d'envoyer des exemplaires de vos journaux?
Alors, une précision,
dans le Sud,
une précision d'abord, nous, ça fait déjà des dizaines d'années qu'en fait on s'est affranchi de Prestalis pour toute l'Île-de-France.
Ouais.
C'était la volonté du précédent actionnaire. On a une filiale qui s'appelle Proximi, qui est formidable, à des gens qui font du portage de journaux en Île-de-France. Donc déjà, on n'est pas concerné là. Le Parisien est moins concerné que d'autres parce que voilà.
Ce qui est énorme. Hein.
C'est énorme parce
c'est énorme.
Et devinez pourquoi on l'a fait. C'était à l'époque pour s'affranchir justement de cette espèce de goulet d'étranglement potentiel lié à Prestalis et à son histoire sociale, on va dire, assez agitée, puisqu'en gros, depuis 44 et la NMPP, il n'y a pas eu de période très très paisible.
Non,
on est dans l'acmé de la crise, mais aussi dans la renaissance.
Prestalis qui engouffre avec elle des millions d'euros de dettes.
Il y a des dettes,
que l'on vous doit. Vous pourriez chiffrer combien vous allez perdre
plus,
dans cette histoire?
Plus de 5 millions d'euros pour nous, par exemple. Plus de 5 millions d'euros, mais qu'on a provisionné. Enfin, on s'est dit, depuis un certain temps, on ne les reverra jamais. Quoi. Mais bon, après, il faut dire un mot aussi, quand même. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur emploi, vraiment.
Absolument.
Donc,
550 personnes, même, chez Prestalis.
Pour chacune de ces personnes, même si c'était des gens plutôt bien payés auparavant, c'est une difficulté à se projeter. Donc tout ça doit être très bien traité. Et autour de la PQN, avec Louis Dreyfus, le patron du Monde, qui a été extrêmement actif là-dedans, on a, avec Marc Feuillet, avec Sophie Grandin, on a essayé de trouver des solutions. Et je pense qu'on est en train d'en trouver. On va sortir de ça, mais il y aura des gens qui auront été abîmés. Et je condamne évidemment, autant le dire au passage, les 100 000 euros de dégâts causés à un dépôt où tout a brûlé, tout a fondu.
Les
c'est hallucinant. Voilà, c'est pas la peine.
Merci beaucoup, Pierre
Louette,
patron des Échos, le Parisien. Aujourd'hui en France, d'être venu au micro de l'Instant M.